Alors moi, je n'ai pas appelé ça des contradictions parce que justement, je pense qu'elles font sens. Et c'est pour ça que j'ai choisi le mot de paradoxe plutôt que le mot de contradiction. Paradoxes qui ont lieu à plusieurs niveaux et dont j'aimerais montrer qu'ils constituent justement la construction d'un sujet moderne. Bon, puisqu'il faut aller vite, je vais attaquer par une sorte de typologie, un de ces phénomènes. Le premier, tout le monde le connaît, hein, c'est ce paradoxe du narrateur-voyeur, hein, avec une posture narratoriale étrange, hein, dans la mesure où Robe Grillet s'efforce de faire disparaître la subjectivité du discours en même temps qu'il nous donne à voir le monde à travers le regard d'un seul personnage narrateur, hein, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc on a affaire à un narrateur effacé avec essentiellement l'effacement du sujet-personnage et notamment de la première personne, hein, qui est l'aspect le plus caractéristique. L'observateur-narrateur est circonscrit et limité à sa fonction. Essentiellement regard et œil. Le regard, page 11, l'observateur posté sur la terrasse, page 13, l'œil, page 13 toujours. Hein. On assiste donc à une sorte d'énalage systématique de la personne 1 vers la personne 3, et c'est encore renforcé par la présence d'un « on » qui apparaît 3 fois dans l'ouverture du roman. Alors ce « on », dans toutes les occurrences, hein, a une seule valeur sémantique, c'est celle de son sens étymologique, et il peut être interprété comme un parasynonyme de tout homme. Du coup, le texte fonctionne comme une sorte d'énoncé problématique et mathématique. Hein. S'il existe un observateur placé dans une chambre de telle manière que le regard ne touche pas à terre, etc., etc. Non seulement, du coup, le sujet est posé sous la forme de la troisième personne, mais encore généralisé, comme tout un chacun qui, et pour tout dire, quasi objectalisé, d'où l'effet de caméra subjective, hein, si présente d'un bout à l'autre de la lecture, on en a parlé tout à l'heure. La détermination nominale est elle aussi problématique. Hein, on observe essentiellement la même structure sur ce début de roman, hein, l'emploi récurrent du déterminant défini, qui pose un sérieux problème théorique, hein, puisqu'on ne sait pas, dans la manière dont il est employé, hein, s'il faut le considérer comme un déictique ou comme un générique. Alors, s'il est déictique, il renvoie au sujet parlant s'auto-désignant, et s'il est générique, il renvoie à n'importe quel sujet en place d'observateur. À mon avis, il est à la fois impossible et inutile de trancher. Et je vous plains si la question tombe de la détermination nominale en langue française, car vous aurez du mal à classer ces occurrences, hein, et je pense qu'il faut maintenir la tension et dire qu'ils sont à la fois déictiques et génériques. À mon avis, l'erreur de beaucoup d'interprètes, c'est de vouloir justement faire un choix dans ces possibles, hein, qui sont disposés de cette façon-là, justement, pour qu'on ne puisse pas trancher. Hein. Le principe d'incertitude doit être le principe dominant de la lecture, à mon avis. En effet, ce qui est posé, c'est l'existence d'une position du regard, par exemple du fond de la chambre, hein, et à la limite, ce regard pourrait être celui d'une caméra ou de n'importe quoi. Mais évidemment, l'incertitude revient assez rapidement grâce aux déterminants définis un peu plus loin, par exemple, dans le groupe nominal « La chambre ». La chambre, est-ce que c'est la chambre de A ? Est-ce que c'est la chambre de quelqu'un d'autre ? Rien ne permet de le préciser. S'il s'agit de la chambre de A ou d'une autre chambre, rien ne nous permet, du point de vue textuel, de le dire. Ça veut dire qu'on va pallier le manque par une construction personnelle. Hein. Ce principe d'incertitude me rappelle personnellement la nouvelle posture scientifique qui émerge, en gros, dans les années 30, hein, enfin, elle commence dans les années 20. Ce principe d'incertitude, c'est celui de l'impossibilité d'objectivité totale. C'est le principe de la complémentarité, c'est le principe de la physique quantique qui énonce que le regard de l'observateur modifie toujours les conditions de l'observation. C'est donc l'abandon de la dichotomie entre subjectif et objectif. Quelles que soient les précautions prises, hein, le seul fait que la chose vue soit vue par un observateur modifie la chose elle-même. C'est un principe scientifique, hein, on n'est pas dans le littéraire ici. Donc générique et déictique, hein, sont en fait, si on veut bien considérer ça comme ça, les deux faces d'une même médaille. Subjectif et objectif ne sont que des notions antinomiques, mais au contraire des notions complémentaires et corrélatives. C'est ce que les physiciens modernes appellent le concept de complémentarité. Et évidemment que Robe Grillet n'ignore pas, hein, puisqu'il est quand même ingénieur, donc il a dû un petit peu en entendre parler, probablement plus que de Husserl. La focalisation, elle, apparaît comme interne. Et le lecteur ne semble avoir aucun autre point de vue que celui du narrateur. Ça, c'est les apparences. Hein. Alors, je dirais que c'est là que commence le leurre. Dans cette espèce de tentative de limiter au maximum la subjectivité du regard, tout en offrant au lecteur que ce seul regard. Car, évidemment, tout le point de vue est en vérité soumis à la position du jeu, à partir de quoi s'ordonne l'espace et le temps de façon entièrement déictique. Donc, c'est pas parce qu'on a enlevé le jeu hein, que ce système-là s'annule. Alors, le temps déictique, hein, je vais aller très vite, c'est celui du maintenant. Évidemment, il est archi-omniprésent dans le texte. Hein. L'œuvre débute même par cette posture déictique, puisque c'est le premier mot du roman. Hein, et cette déictie, c'est extrêmement problématique en contexte romanesque, rappelons-le, puisque... le fait même qu'il y ait différence au sens de Derrida hein, et non coprésence de l'émetteur et du récepteur pose un problème d'identification du maintenant et le contexte lui-même, ce fameux maintenant ici est quand même un peu suspect en univers fictionnel hein, d'inexistence. On va donc parler plutôt d'un effet de déixis hein, ou d'une pseudo-déixis romanesque. Pourtant, tout ce qui va suivre va quand même être soumis à cette relativité de la position de l'observateur qui va bien sûr infléchir l'observation. Cet état de fait, qui est celui, je le rappelle, de la science depuis les années 20, hein, est exhibé par la position première de l'adverbe. Il s'ensuit que le présent de narration est un présent actuel ponctuel, hein, on en a parlé tout à l'heure de ce présent, d'une durée extrêmement limitée, comme en atteste d'ailleurs la description de la position de l'ombre du pilier. La temporalité, l'étendue du présent est extrêmement étroite. Maintenant, le prototype de l'adverbe déictique temporel, hein, qui renvoie au nunc latin, il apparaît très souvent en tête de paragraphe, si bien que sa répétition à la même place, sous la forme d'une anaphore macrostructurale, prend à force une importance concrète dans le déroulement de l'acte de lecture, créant à la fois un effet de rythme fort et un effet de successivité marqué. Alors, je ne vous les rappellerai pas. Ce qui m'intéresse, hein, c'est que ça ne fonctionne pas du tout. Je vais parler un peu de Duras aussi, comme chez Duras. Hein. Donc, j'avais observé, par exemple, dans le ravissement de Wolfenstein, un autre élément déictique qui était local, celui-là. Hein, c'était le « ici » à « est à là ». C'est ce qu'on rencontre souvent dans le roman à partir des années 50. Hein, c'est-à-dire un effet de déixis, mais qui est limité et explicité par quelque chose qui permet de construire... Hein, une espèce d'univers fictionnel. Ici, ça n'est pas le cas. Il n'y a absolument rien qui permette de construire où est ce maintenant. Par contre, à la différence de ce qui se passe dans le ravissement de Wittgenstein, ces maintenant se succèdent. Et si on regarde bien ces repères que constitue maintenant, créent finalement la même chose que le passé simple tel que le décrit Barthes. C'est-à-dire une sorte d'enchaînement, non pas temporel, mais causal. Sauf que, ici, on n'a pas affaire à un enchaînement causal, c'est au contraire un enchaînement acausal. Cet enchaînement acausal enchaîne et plonge le sujet dans un monde difficilement signifiant, peu rassurant, et assez proche, par exemple, du monde beckettien. Du fait que, justement, il y ait successivité, mais non causale, on introduit le lecteur dans un univers extrêmement angoissant. D'autres marqueurs temporels, évidemment, vont renforcer cet effet de relativité, hein, notamment à cet instant, encore, puis ensuite, déjà, de nouveau, une fois de plus. Hein, tu as parlé un petit peu de l'effet de encore, hein, je pense qu'il est aussi très très important dans le texte. On va retrouver évidemment la même chose du côté de l'espace, hein, avec le ici. Hein. Alors, cette fois-ci, ça fonctionne un petit peu différemment. Étant donné la surreprésentation descriptive, hein, la situation déictique de l'espace va fonctionner de la manière suivante. Apparition d'un groupe nominal renvoyant à l'espace, précédé d'un article défini, et reprise anaphorique au moyen d'un déterminant démonstratif ou d'un pronom démonstratif. Du type l'angle correspondant de la terrasse, cette terrasse, alors j'en ai plein, hein, au coin de la maison, ce coin de terrasse, l'épaisseur barre d'appui, cette barre, le flanc opposé de la petite vallée, ce secteur, ce versant-ci, la route, cette route, la concession, celle-ci, etc. Je vous les cite pas tous. Alors c'est très intéressant, hein, parce qu'en fait, c'est une reprise qui est uniquement anaphorique, et retenez-le bien si vous avez ça en syntaxe, mais l'effet est fortement délictique, étant donné le fonctionnement démonstratif de monstration, justement. On a l'impression de DXIS, alors que le fonctionnement syntagmatique, lui, est totalement anaphorique. Aucune réelle DXIS n'est possible dans l'écriture littéraire, et ici, Roch Grier s'efforce de créer un très fort effet de DXIS grâce à ses reprises anaphoriques par des démonstratifs. Ce procédé va être présent tout au long du texte et va permettre d'augmenter l'effet de présence du narrateur et l'impression d'une focalisation interne. Et alors, ça va se gâter un peu plus au fur et à mesure. C'est un peu comme l'effet d'objectivité dont on s'aperçoit assez vite qu'il n'est que subjectif. Ça se gâte un peu plus par l'intrusion du discours indirect libre. Pourquoi ? Parce que ici, on a l'impression d'une véritable feinte de l'écrivain, avec résurgence de l'auteur même. C'est-à-dire que cet apparent personnage objectif qui regarde et qui enregistre, tout d'un coup, laisse place à la pensée d'autrui. Et ça se passe page 10. Donc très vite. Méa s'est contentée de sourire, deux points. Elle ne souffrait pas de la chaleur. Elle avait connu des climats beaucoup plus chauds, en Afrique par exemple, et s'y était toujours bien portée. Alors ce passage est assez subtil et retorse. On a quelques indices, la présence des deux points, les formes verbales en AI, qui laissent entendre qu'on est passé du discours du narrateur à un discours indirect libre. Tout fonctionne comme si les deux points amenaient un décryptage explicatif du sourire de A. Mais A s'est contenté de sourire. Ça, c'est ce qu'on voyait. C'est l'aspect objectif. Deux points, et ça, c'est l'explicitation, et on rentre à l'intérieur de sa conscience à elle. Elle ne souffrait pas de la chaleur, elle avait connu des climats beaucoup plus chauds en Afrique, par exemple, et s'y était toujours bien portée. Rien ne dit que ce discours ait atteint la réalité à un moment ou à un autre. On serait donc dans les pensées de A, les pensées qui induisent le sourire. Et du coup, là, on n'est plus du tout dans un narrateur objectif. On est dans le cadre d'un narrateur qui outrepasse son propre point de vue extérieur pour pénétrer dans l'intériorité de son personnage. Il va récidiver un peu plus loin, en notant à propos de A, qu'elle regarde le bois des pins sans y penser. Comment peut-il savoir qu'elle y pense ou qu'elle n'y pense pas ? Le narrateur se récite du coup subrepticement de la stricte notation objective de ce qu'il voit pour entrer dans une conscience. La focalisation interne est du coup loin d'être totalement respectée et le narrateur en sait plus que ce qu'il espère nous faire croire. À moins qu'il ne s'agisse de l'affleurement de l'auteur en Deus ex machina qui vient ironiquement nous rappeler que tout dans le texte littéraire est création et nous invite ainsi à adopter une posture un peu plus suspicieuse. La position du narrateur, du coup, n'est pas très claire. La focalisation interne glisse souvent de l'intériorité du sujet parlant vers son objet, et dès lors, on peut se demander comment fonctionne réellement le descriptif si proliférant et si excessivement précis. Pardon. Là aussi, on est dans le paradoxal, puisqu'on a une sorte d'exacerbation de la description de l'espace. Alors, je vais aller très vite sur le début, puisque c'est des lieux communs. On a affaire... C'est ce qu'ont dit les critiques à la réception du texte, à une sorte d'écriture de géomètre. Comme l'a dit Stéphane tout à l'heure, ça tient essentiellement au vocabulaire technique, cet effet de précision, vocabulaire en l'occurrence de l'architecture et de la géométrie. Alors, notez-le bien, le vocabulaire de la géométrie est plus représenté que le vocabulaire de l'architecture, ce qui crée un premier effet d'abstraction qui rend la lecture beaucoup plus complexe que si on était uniquement dans le vocabulaire architectural. Angle, partie égale, large, largeur, etc. sont des mots qui renvoient à des choses très très abstraites et qu'il est difficile de se représenter à la lecture. On assiste à une sorte de mathématisation de la maison, les éléments architecturaux se transforment en éléments géométriques abstraits, ce qui n'est pas évidemment sans compliquer l'élaboration mentale d'une représentation de la chose vue dans l'esprit du lecteur. C'est renforcé encore par tout un arsenal de procédés qui ont pour but de créer un effet de précision. Alors, les adverbes, notamment, exactement, proprement, distinctement, des reformulations au moyen de c'est-à-dire, et puis des redondances qui créent cette espèce d'effet de précision, comme si on était dans le cadre d'une description architecturale réelle. Ce qui est curieux, quand on regarde d'un peu plus près, c'est qu'il ne s'agit pas tant de décrire la maison ou la terrasse que de décrire le mouvant, puisque la description initiale, inaugurale, est celle du nombre. et non pas d'une maison. L'ombre comme chose immatérielle et mobile est posée comme objet sous le regard, comme si on allait pouvoir l'attraper, ce qui évidemment n'aura pas lieu car elle ne fait que bouger. Même chose pour la bananeraie, l'espèce de sur-mathématisation de la bananeraie n'est là que pour endiguer ce qu'est un bananier, c'est-à-dire une chose vivante qui déstructure toute géométrie humaine. Hein? La description du végétal, c'est évidemment la description de l'impossible rectitude. Du coup, on a affaire à une sorte de leurre de la précision. Hein. Aucune représentation ne va naître dans l'esprit du lecteur. C'est ce que disait tout à l'heure Stéphane, et je pense que c'est à cause de l'excès même hein, de précision et de détail qu'arrive l'inhibition pure et simple de la représentation de l'objet décrit. Je vous défie, on pourrait faire un concours, de dessiner la maison dont il est question. C'est impossible, comme le disait tout à l'heure Stéphane, d'autres éléments. Hein. Du coup, effectivement, on est dans la réflexivité textuelle. Alors, qu'est-ce qui reste puisqu'on ne peut pas construire la représentation? On l'a dit tout à l'heure, hein, c'est même ça va assez loin dans la déconstruction, dans le gommage des possibilités représentatives. Il reste le rythme. Alors, c'est assez amusant parce que bon, on a le rythme très apparent comme la structuration par le maintenant, hein, qui revient tout le temps. Mais alors, moi, je me suis demandé aussi si on n'avait pas beaucoup, beaucoup d'alexandrins blancs. Comme par exemple le pilier qui soutient l'angle sud-ouest du toit, c'est-à-dire la façade et le pignon ouest, etc. Et vous ferez l'essai, hein, tout ce qui est entretiré est suspect de ce point de vue rythmique-là. Hein, il y en a beaucoup. Les répétitions, évidemment, hein, ça c'est plus facile à repérer, hein, créent de forts effets phoniques, hein, de retour du même. L'extrême précision de la description, du coup, produit cette réflexivité textuelle qui annule l'espace extérieur lui-même et exhibe au contraire l'espace textuel. Hein. Et pourtant, alors, j'en viendrai un petit peu à approfondir ce que nous a dit Stéphane dans la troisième partie. Alors, qu'est-ce que c'est que ce sujet? Voilà. Comment on va faire la synthèse? C'est-à-dire qu'on a cet aspect objectif, cet aspect très subjectif. Il me semble que le sujet à la vie dure, hein, il revient assez rapidement. D'abord parce que la description de l'espace est une description du regard, on l'a dit. Hein. Cette description du regard, elle s'exhibe par exemple à la page 13 avec des expressions qui permettent de poser des contrastes visuels de type flou net. Par exemple, empêche de bien voir, qui s'opposera par exemple à s'impose au premier regard. Alors là, on pourrait ajouter ça à l'effet cinématographique du texte, à cette tentative de mimésis, non plus d'un tableau, comme on le disait tout à l'heure, mais cette fois-ci de l'art cinématographique lui-même. Et puis, soudain, il y a des décrochements qui permettent l'intrusion de l'invisible, comme par exemple ce que voit A. A, sans y penser, regarde le bois dépeint de la balustrade, plus près d'elle, l'appui dépeint de la fenêtre, puis, plus près encore, le bois lavé du plancher. Si j'étais en caméra subjective avec le narrateur, il faut bien que là, je sois en caméra subjective avec A. Parce que sinon, le narrateur ne peut pas me montrer que A regarde ça. C'est pas possible. Surtout à la distance où il est de A, puisqu'il est loin. Donc, on a quand même un montage de différentes subjectivités hein, qui ont l'air d'être noyées dans la même conscience unique, mais qui ne le sont pas. Et puis, finalement, on trouve au bout d'un moment que le sujet est quand même assez envahissant, ce qui est assez normal, hein, puisqu'il est quand même question de jalousie. Enfin, c'est un peu de ça qu'il est question. Que de ça qu'il est question, donc c'est quand même assez subjectif comme truc. Hein. Le sujet est envahissant et ça se manifeste. Alors, ça m'intéressait beaucoup ce qu'on disait tout à l'heure sur le présent, parce que c'est vraiment la grande différence avec Proust, mais justement, j'y verrais moins un antagonisme qu'une métamorphose. On a une sorte de présentation de la mémoire comme éternel présent émotionnel. Le sujet et sa jalousie, ou plus largement son rapport à l'autre, hein, est-ce qui... Le rapport à l'autre du sujet comme jalousie est ce qui définit le sujet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la structure est le signifiant et le langage. Alors, comment on va le montrer dans le texte concrètement? Il me semble que souvent le moi revient à l'adverbe. Alors, on l'a vu avec les déictiques, hein, maintenant et ici. On peut le pister aussi avec d'autres adverbes, en particulier les adverbes de quantité. Trop, beaucoup, plus, même. Alors, c'est ce que Stéphane disait aussi à propos des adjectifs, notamment ceux qui donnent la taille, etc., qui ont l'air d'être objectifs, mais qui ne peuvent pas l'être, puisqu'ils sont dans un système relatif. Donc, trop, beaucoup plus, même, naturellement, en effet, réintroduisent le narrateur comme évaluateur et porteur d'idéologie, hein, comme par exemple dans une phrase comme celle-ci, page 13. Cet exercice n'est pas beaucoup plus difficile, malgré la pousse plus avancée, pour les parcelles qui occupent le versant d'en face. Beaucoup plus difficile pour qui ? Hein ? C'est forcément extrêmement relatif. On imagine que l'ingénieur agronome n'a pas de difficulté à faire cet exercice, et qu'un promeneur quelconque pourrait en avoir. Cette temporalité du présent, alors on va essayer de l'observer tout bêtement dans les temps verbaux. Hein. Passé composé, présent formant AI. Voilà ce qu'on a dans ces premières pages. Hein. Ce choix du passé composé plutôt que du passé simple, évidemment, permet de renvoyer à un présent du passé ou à un passé encore présent, et trahir un repère chronologique qui n'a de sens que relativement au sujet de l'énonciation. Puisqu'on a parlé de Camus tout à l'heure, je pense qu'il ne faut surtout pas confondre le passé composé de Robe Grillet et celui de Camus. Chez Camus, la trace des antiques, la trace des anciens est quand même extrêmement présente. Hein. Tous les passés composés chez Camus sont fortement teintés de tragique, notant une sorte d'irréversibilité temporelle, hein, et c'est la valeur d'accompli qui est la plus forte. Chez Robe Grillet, à mon avis, c'est la valeur de présent qui est la plus forte. D'ailleurs, ces passés composés sont soutenus par beaucoup, beaucoup de présents. Hein. Ils fonctionnent en rapport avec eux. Et le présent, évidemment, c'est le temps émotionnel par excellence. Il va permettre de construire un temps de la conscience qui va varier du ponctuel à l'omnitemporel. Et c'est là que ça se complique sûrement le plus. Hein. Je vais prendre un exemple concret. Ce présent va permettre justement de superposer des époques différentes. Je prends l'exemple des boucles noires de ses cheveux qui se déplacent, la page 10. Les boucles noires de ses cheveux se déplacent. Ce membre de phrase va faire coïncider le temps du déjeuner, le temps du maintenant dans la chambre. On ne peut pas savoir si les boucles noires se déplacent au moment du déjeuner ou au moment du maintenant, ou les deux. Hein ? Rien ne permet de l'expliciter. Le lecteur a ainsi le sentiment qu'il se produit une sorte de percutage des présents dans la conscience du sujet parlant. C'est-à-dire que le temps du déjeuner et le temps du maintenant, c'est les mêmes pour la conscience du sujet. Le présent permet aussi de donner le sentiment d'une sorte d'éternisation du sujet, hein, qui va souvent être renforcée par des adverbes comme « partout » et « toujours ». Comme par exemple, dans ce même passage, hein, page 10, « elle conserve partout la même aisance ». Et vous pourrez noter aussi qu'une expression adverbiale comme « une fois de plus » fonctionne exactement de la même façon. C'est-à-dire ce présent qui, à l'origine, est actuel ponctuel, va se superposer avec un autre présent actuel ponctuel d'un autre moment et va finir par s'étirer de telle manière qu'on ne sait plus quelle est sa limite temporelle. Du coup, on peut se demander s'il n'existe pas une sorte d'éternel, hein, du sujet émotionnel qui transcenderait justement tous ces moments présents et qui peut-être définirait le sujet lui-même. Reste à observer les temps AI, on l'a déjà vu tout à l'heure, hein, ils vont renforcer l'effet de superposition et de percutage des différents moments de la temporalité du sujet dans la mesure où ils permettent l'intrusion du discours indirect libre. Hein. Le souvenir et le moment vécu, le déjeuner et le moment où A est dans la chambre se superposent en même temps que les points de vue de A, du narrateur et de l'auteur s'imbriquent dans une conscience subjective unique. Du coup, on peut se demander hein, si le sujet ne se raccroche pas à une architecture extérieure hyper stable en tout cas qu'il tente de rendre hyper stable, hein, et qu'il tente de fixer, justement pour pallier la mouvance ou même le chaosmos ou même le chaos tout court de son être intérieur. Si c'est le cas, alors il est bien la pure résultante du monde d'après la Seconde Guerre mondiale, hein, ce monde perdu qui n'a plus ni idéologie, ni certitude sur le sujet, ni... ni quoi que ce soit qui soit stable. Hein. Je vous rappelle qu'on a évoqué pas mal de théoriciens là, en philosophie, etc., mais c'est aussi l'émergence de Lacan, hein, et l'idée même que je pose problématiquement son existence. Hein. Je n'existe qu'à travers l'autre. Donc le sujet lui-même est touché par cette espèce de relativité générale. Toutes les certitudes semblent être tombées, hein. L'architecture devient alors le seul rempart à une chute dans le tout relatif, une sorte de tentative ultime pour empêcher la catastrophe d'un moi effondré de plonger complètement dans le vide. Son effacement même est le signe de ce vide qui absorbe tout dans un regard dévorant, aussi bien le cadre du monde qui l'entoure que ses propres principes de réassurance, hein, que l'autre, vers lequel quand même, tout de même, il continue à se projeter. Du coup, on peut se demander si cet autre, le vrai autre de la jalousie, c'est peut-être pas tellement A ou Franck ou je ne sais pas qui, le vrai autre de la jalousie, c'est sûrement le sujet lecteur, hein, et je pense qu'il faut quand même voir comment il va pouvoir s'impliquer, étant donné les problèmes que nous avons tous, parfois, quand même, un peu, avec ce texte. Alors... Par rapport à la DX6, hein, et par rapport au fort effet de DX6 du texte, je dirais qu'il n'y a vraiment que deux attitudes possibles. Hein. C'est le cas aussi chez Duras, mais peut-être moins. On va voir tout à l'heure comment ça fonctionne. Je pense qu'il y a plus de choses où on peut se raccrocher chez Duras que chez Rob Grier. C'est moins radical. Mais vraiment, chez Rob Grier, il faut fonctionner sur le principe de connivence ou jeter le livre. Il n'y a pas deux solutions, hein. Il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de « on va le lire pour savoir ». Non, soit on accepte d'être ici maintenant, même si on ne sait pas ce que c'est et nous sait, soit on jette le livre parce qu'on ne peut pas se repérer. Donc le principe de connivence fonctionne de manière extrêmement forte. Ça veut dire que si on accepte cette connivence, on rentre dans la fiction et on accepte le principe d'un « si j'y étais ». Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, le narrateur voyeur, c'est nous. Il n'y a pas tellement d'autres solutions. Du coup, le lecteur va devenir le bâtisseur de son propre espace référentiel fictif. Ça veut dire que toutes les indications, les surprécisions, les détails, etc., finalement, on s'en fiche un peu, je dirais. Hein. Ça ne sert que d'indice pour se construire une maison coloniale, peu importe laquelle, la nôtre. Et observer comment l'ombre s'y déplace. Hein. Et puis, évidemment, on devient aussi... Donc, moi, je pense qu'il y a une sorte de coérection de l'espace décrit, hein, et c'est pour ça que si on essaye de le mettre à plat, on ne peut pas visualiser la maison, hein, parce qu'il reste la moitié du travail à faire par le lecteur. Hein. Même chose aussi, le lecteur devient le pisteur voyeur, hein, le jaloux. Il est impliqué dans ce regard, voire il est en place de ce regard. Il est le narrateur dans cet univers fictif. Et du coup, devenant le voyeur observateur de A, le seul voyeur observateur de A. Et je crois que, enfin, ça me paraît très étrange, moi, à chaque fois, ça me fait un effet bizarre, de voir les critiques nous parler du mari de A. Ça, c'est très étrange. Enfin, alors, le mari de A, c'est moi. Il n'existe pas concrètement. Hein. Rien ne nous permet. Là encore, hein, c'est le lecteur qui construit qui est ce voyeur, hein, en fonction de ce qu'il est lui. Si c'est un mari, il se voit en mari. Hein. Fictionnellement parlant, j'entends. Donc je pense qu'il faut rester vraiment dans cette idée que les vides du texte sont à remplir par le lecteur. Il ne faut surtout pas essayer de les combler artificiellement par des interprétations, parce qu'après, elles se valent toutes. Hein, c'est-à-dire que le mille-pattes, par exemple, que ce soit un phallus ou autre chose, ça marche à tous les coups. puisqu'il y a suffisamment de blanc pour qu'on puisse réinvestir du symbole à n'en plus finir. Il y a, je trouve, très exhibé les concepts de Deleuze aussi sur la régression infinie du sens, et toutes ces choses-là. C'est-à-dire qu'on peut remonter et remonter et remonter. De toute façon, à la fin, la seule chose qui peut émerger, c'est ce que Lacan appelle le signifiant, c'est-à-dire une espèce d'image du sujet. On ne peut pas trouver grand-chose de plus dans le texte. Et quand tu citais le Rob Grier, je ne parle que de moi, oui, comme tous les auteurs. Du coup, il me semble que, en regardant les phénomènes syntaxico-sémantiques du texte, il n'y a pas tant de paradoxes qu'on pourrait le croire au départ, et pas tant de contradictions. Je pense qu'au contraire, il essaye de rendre au plus juste ce qu'est le sujet, et c'est là-dessus que tu avais terminé aussi, ce qu'est le sujet après la Seconde Guerre mondiale. Il essaye de trouver un langage pour décrire cette nouvelle réalité du sujet telle qu'elle est comprise par un peu toutes les théories que vous avez tous citées, que ce soit au niveau philosophique ou autre. Ce sujet, c'est quoi? C'est un sujet effectivement contradictoire, puisqu'il est issu à la fois du matérialisme du XIXe siècle, celui que déplorait d'ailleurs amèrement Huysmans dans des textes comme À rebours ou Là-bas, celui sur lequel Marx va fonder sa philosophie, ce matérialisme-là, et en même temps, il commence aussi à évoluer vers quelque chose de moins rassurant que ce matérialisme-là, puisque la matière, bien isolable jusqu'à la fin du XIXe siècle, devient elle aussi problématique à partir des années 20, puisque elle peut être à la fois onde et particule. Ce qui ne nous rassure pas du tout. Selon comment on l'attrape, c'est assez inquiétant. Alors, cette matière, du coup, elle a des visages multiples. Des visages qui changent en fonction du sujet observateur, et non seulement des visages multiples, mais des visages carrément contradictoires, ondes ou particules. Et de cette révolution, évidemment, cette révolution a des conséquences sur la perception d'un sujet, puisque on va vers l'incertitude totale. D'ailleurs, c'est le concept adopté en physique, le principe d'incertitude. Incertitude, évidemment, aussi en ce qui concerne le sujet. C'est-à-dire que on a parlé de la phénoménologie en rapport avec Descartes, mais je ne crois pas que la réduction soit du même ordre. C'est-à-dire que Descartes écarte par le doute la réalité, puis, étant arrivé au bout, la remet telle qu'elle. Je pense qu'avec la réduction phénoménologique, il n'y a pas remise en place. Alors, effectivement, il y a Leidos qui refait un peu la même chose que Platon, et puis la même chose que tout langage. Mais je ne crois pas que ça soit aussi stable. C'est-à-dire que ce qui reste, finalement, n'est qu'une espèce de structure très peu habillé. D'ailleurs, tu l'as dit, du noir sur du blanc. Alors, je ne suis pas sûre que du noir sur du blanc, ce soit l'écriture. Je crois que c'est juste du noir sur du blanc. Donc, je pense que il n'y a pas stabilité, il n'y a pas reconstruction d'un monde cohérent. À aucun moment. Même chez Husserl. Et pas du tout chez Rob Grier. Ça, c'est sûr. De toute façon, c'est lui notre sujet. Je pense que la seule reconstruction, c'est une tentative de circonscrire l'angoisse. Et c'est bien ça l'idée de la répétition. Épuiser l'angoisse afin de finir par la limiter. Je m'arrête.